Mon royaume n'est pas de ce monde. En répondant ainsi à Pilate lors de son procès romain, le Christ affirme de manière incontestable quelle est la finalité ultime de l'être humain. Le Christ n'est pas seulement le Sauveur, il est également le Verbe incarné, le Fils de Dieu qui vient révéler aux hommes leur destinée. Ils doivent donc œuvrer vers un but qui n'est pas dans ce monde, le royaume des cieux. Mais le corollaire immédiat d'une telle affirmation, c'est qu'il nous faut affirmer le caractère anti-politique du christianisme, pour reprendre l'expression de Jacques Ellul. Il ne s'agit pas d'une conception apolitique au sens où cela n'a aucun intérêt. Non, le christianisme est anti-politique au sens où il s'intéresse d'abord et en premier lieu à la finalité ultime de l'être humain. Il relègue ainsi la politique à un autre ordre, subordonné et d'une valeur moindre. Cet enseignement sera constant dans l'Évangile. On voit d'abord notre Seigneur rejeter la tentation de Satan qui veut lui offrir tous les royaumes de la terre. On voit également le Christ refuser de répondre à la délicate question du paiement de l'impôt à César par cette formule extrêmement célèbre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais on pourrait également noter l'attitude du Christ extrêmement sceptique vis-à-vis des zélotes, les activistes politiques de l'époque, mais également le rejet dans une même erreur des positions adverses des pharisiens et des sadducéens quant à la question de la collaboration avec l'envahisseur romain. Cette énumération non exhaustive permet donc de comprendre que le christianisme est une permanente contestation de tout pouvoir politique, au sens où sa valeur est systématiquement relativisée. Le christianisme s'intéresse au royaume des cieux. Et cela permet, d'entrée de jeu, de placer la politique sur un autre terrain que celui du christianisme. Mais le chrétien est appelé à vivre dans le monde à une époque donnée avec ses avantages et ses difficultés, et c'est bien dans ce monde qu'il va devoir obtenir son salut. C'est pourquoi, lorsque nous affirmons que le christianisme est d'un autre ordre, qu'il n'est pas la même chose que les réalités de ce monde, que la politique, cela ne revient pas à dire qu'il n'a aucun lien avec lui. Le christianisme ne méprise pas le temporel, pour reprendre la formule de Charles Péguy, qui fustigeait les chrétiens qui, parce qu'ils n'avaient pas le courage d'être du monde, croyaient qu'ils étaient de Dieu. En promouvant un homme nouveau, le christianisme doit être le ressort intérieur qui guide l'action temporelle de l'homme. Ainsi, il ne faut pas chercher dans notre religion des réponses immédiates à des questions politiques, ça n'est pas son objet. En revanche, nous trouverons dans notre religion les clés qui permettront à l'homme de choisir l'agir le meilleur. Dans l'optique de ce colloque sur le thème de la sécession et de la reconquête, nous ne pouvons donc pas demander au christianisme de répondre simplement. Ce n'est pas lui qui va répondre. Pas plus que le Christ n'a répondu à ses apôtres quant à l'attitude vis-à-vis des Romains. Nous n'avons jamais entendu parler le Christ. Nous n'avons jamais entendu parler de sécession, de rébellion, de reconquête. Ce sont des termes absents de l'Évangile. En revanche, le christianisme forge un type d'homme capable d'aborder cette question. Et c'est cela ce que je vous propose de rechercher. Puiser aux sources du message chrétien pour trouver l'inspiration d'un agir temporel conforme à la finalité ultime de l'être humain. Mais cela exige, évidemment, une purification. Nous devons purifier le christianisme de toutes les scories, subversions et déformations qu'il a subies, notamment quant à la question politique. Ce n'est qu'au terme de cet assainissement que nous pourrons alors essayer de tenter de voir ce qu'il y a de plus radical quant à la vision de l'homme dans le christianisme, ce qu'il peut nous apprendre par rapport au thème que nous abordons aujourd'hui. Et enfin, nous pourrons, suite à cette démarche, essayer de tenter de comprendre comment, dans le concret de notre époque, notre agir va s'incarner. Je commencerai donc par des écueils et je partirai d'une citation de Kierkegaard pour montrer combien le christianisme a pu être subverti. Lui qui disait « L'histoire témoigne que de génération en génération existe une classe sociale hautement respectée, il désigne les prêtres, dont le métier consiste à faire du christianisme le contraire de ce qu'il est. » Je vais donc dénoncer deux erreurs générales, il s'agit évidemment ici de brosser rapidement, deux erreurs quant au rapport de la politique au christianisme. Et la première, c'est une appropriation du christianisme par le champ politique. Il s'agit là d'une subversion, parce que ce sur quoi il faut se fonder, c'est sur le caractère subvertif du christianisme. J'emprunte cette pensée à Jacques Ellul. Le message du Christ est foncièrement subversif à l'égard de tous les ordres sociaux, politiques, économiques, moraux et religieux. Et le christianisme a lui-même été subverti au point de devenir l'exact contraire de son impulsion première. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que le christianisme ne peut pas s'accommoder d'un monde politique. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours mal à l'aise. Nous ne sommes pas à notre place totalement dans ce monde, au sens où le rôle des chrétiens n'est pas de s'accommoder avec ce monde, mais d'en dénoncer les travers, les injustices. Ainsi, lorsque le christianisme s'accommode avec un régime, lorsqu'il finit de dénoncer l'injustice, c'est qu'il s'est installé et embourgeoisé. Les formes d'appropriation au cours des siècles ont été nombreuses, et aujourd'hui, on arrive à un stade ultime où on arrive à tout faire dire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu un prétexte pour parler de n'importe quoi dans les églises, disait Divo Barsotti. Et je crois qu'aujourd'hui, même certains marxistes pourraient se revendiquer du Christ. N'est-il pas, lui, le fils d'un artisan, le représentant de la classe prolétaire en lutte contre la classe dirigeante? Même les capitalistes ont réussi au siècle dernier et surtout au siècle précédent à justifier et à cautionner toutes les puissances économiques par le christianisme. À chaque fois, la même erreur est répétée. C'est l'instrumentalisation du christianisme à des fins politiques, mais elle se base sur une erreur bien plus profonde, celle qui consiste à vouloir chercher dans l'évangile un message politique qui n'y est pas. La deuxième erreur générale consiste à légitimer son propre agir politique, ses propres décisions ou les pouvoirs politiques par le christianisme. Évidemment, il y a ici un écueil très grave parce que l'évangile ne traite pas de ces questions. L'évangile traite du royaume des cieux. Et certes, il arrive au Christ d'aborder des thématiques qui vont toucher la vie quotidienne des gens. La question de l'impôt en est une. Mais à chaque fois que le Christ traite de cette question, n'oubliez pas que, comme toujours en politique, il s'agit d'une situation concrète. L'envahisseur romain n'est pas l'envahisseur d'aujourd'hui. L'impôt d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de transposer la réponse du Christ, qui, elle, est universelle, mais qui, quant aux choses politiques, concerne bien le concret, comme toujours en politique. La politique n'a pas la valeur universelle du christianisme. Et c'est toujours un danger de vouloir chercher dans l'évangile des réponses immédiates à des problèmes politiques. On finit forcément par fabriquer une religion du livre en voyant dans la Bible un pur code civil qui nous dit quoi faire. Pour prendre un exemple concret, imaginez aujourd'hui un dirigeant dont le pays serait envahi par un agresseur. On aurait du mal à voir ce dirigeant parler à sa population en disant de tendre l'autre joue. L'évangile ne peut pas légitimer tout l'agir politique. Le problème de ces erreurs, de ces deux erreurs que je viens d'énoncer, c'est qu'elles ont fabriqué un chrétien d'un certain type. J'évoquerai trois écueils dans la fabrique du chrétien. Trois erreurs. D'abord le chrétien fuyard, ensuite le chrétien collabo, et enfin le chrétien réactionnaire conservateur. Le chrétien fuyard, je ne m'y arrête pas parce que ce vocabulaire ne fait pas partie de notre patrimoine. Que ce soit par sentiment d'inutilité, par découragement ou par espérance d'un secours surnaturel, qui sait, peut-être que Jeanne d'Arc reviendra juchée sur un poney blanc, le chrétien ne peut pas fuir la réalité de ce monde. Le courage et la force sont des vertus qui, elles, font partie de notre patrimoine. Le deuxième écueil me paraît beaucoup plus grave, il s'agit de la collaboration, de la collusion avec le pouvoir politique. Évidemment, peut-être que cela peut vous paraître illusoire ou complètement étranger à votre vision, mais le christianisme s'est laissé berner bien des fois et la démocratie chrétienne a été le doux rêve de certains, une illusion totale. Jean Madiran a très bien résumé la chose en parlant des démocrates chrétiens. Ils avaient voulu christianiser la démocratie, ils ont démocratisé l'Église. Ils sont aujourd'hui devenus, et l'élite catholique en est malheureusement souvent un bon témoin, les nouveaux prêtres jureurs. Je répondrai à ces collabos une phrase de Saint-Loup. On n'a jamais vu un peuple redevenir libre par la mansuétude de son oppresseur. Ce n'est pas en étant gentil avec notre oppresseur qu'il finira par se convertir. Le problème de la collaboration, c'est qu'elle peut aboutir à une trahison beaucoup plus grave. Soumission et reddition ne font pas non plus partie de notre vocabulaire. Nous vivons dans un monde libéral ou post-libéral où le compromis est l'essence même de la société. Pourquoi ? Parce que c'est un marché, donc tout se monnaie. Nous ne pouvons pas vivre dans ce compromis. Et je citerai ici Dominique Vénère qui, lui, n'avait pas peur. Il disait « Préférer se mettre tout le monde à dos que se mettre à plat ventre. » Dans les revers, ne jamais se poser la question de l'inutilité d'un combat perdu. À côté de ce deuxième chrétien falsifié, il y a le chrétien réactionnaire conservateur. Ici, les notions sont complexes parce que dans le côté réactionnaire comme dans le côté conservateur, on pourrait trouver des aspects qui sont proches de nos idées. Mais ce que je veux surtout dénoncer à travers cette association de concepts, c'est l'immobilisme des chrétiens. Cela se base sur un réflexe qui est celui de vouloir conserver ce qu'on aime. C'est un réflexe naturel à l'être humain. Lorsqu'il aime une chose, il n'aime pas en être privé. Et en temps de crise, il aura tendance à vouloir s'accrocher à ce qu'il aime, ne pas vouloir le quitter. Mais Robert Dain disait à juste titre que toute forme de peur engendre une crispation, et la crispation un vieillissement. Cela finit forcément par un attachement excessif aux ruines d'un empire déchu, qui se caractérise souvent chez les chrétiens par un slogan beaucoup trop répété, « C'était mieux avant ». C'est quelque chose qui ne peut pas faire non plus partie de notre patrimoine, au sens où vous pouvez bien penser que c'était mieux avant, mais c'était avant, maintenant, nous intéresse plus. Malheureusement, cela entraîne souvent un combat purement réactionnaire chez les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils se contentent de déplorer un passé qu'ils aimaient et de subir les agressions d'un État ou de groupes de plus en plus offensifs, et agression après agression, ils assistent immobiles au délitement d'un monde qui leur a plu. Face à cela, à cette réaction à la française, Dominique Venner opposait la révolution conservatrice allemande. Voici ce qu'il dit de ce conservatisme. Ce conservatisme est l'inverse de la réaction à la française. Il signifie résurgence active de l'essentiel et non défense nostalgique de formes périmées. La réaction, c'est l'immobilisme. Le conservatisme est retour aux sources, il est proprement révolutionnaire et il ne répugne pas à l'emploi de moyens révolutionnaires. Face à tous les chrétiens qui malheureusement ne font qu'attendre la prochaine agression, j'aimerais leur donner l'avertissement que Robert Dain formulait « Soyez prêts à tout, car tout est sur le point d'arriver ». Alors j'aimerais vous engager, après cette partie sur les écueils, sur une autre voie. Revenir au message foncier de l'Évangile, ce qui nous apprend sur l'homme, et poursuivre une intuition, voir dans le christianisme une école de sécession. Pour cela, il nous faut changer de point de vue. Trop souvent, nous luttons contre le temps et le progrès qui avance. Je vous propose donc de ne pas être contre le temps, mais hors du temps. Pour comprendre cette idée, j'aimerais partir d'un constat malheureusement inavoué et où les gens ont peu de lucidité, notamment dans le monde chrétien, sur la place du chrétien dans le monde. La place de l'homme lui est donnée par sa nature, son identité vient de la nature. Le christianisme ne fonde pas une nouvelle appartenance au monde terrestre, il fonde une nouvelle appartenance au royaume des cieux. Ainsi, c'est bien la nature de l'homme, son identité, qui fonde cette appartenance. Il n'y a donc pas de place pour le chrétien dans le monde, et le Christ lui-même n'a pas eu une pierre où reposer sa tête. Quel sera le rôle du christianisme ? D'aider l'homme à trouver sa place ou à occuper la place qui est la sienne dans ce monde, cette place qu'il a par la nature. Et il le fera en dénonçant justement les injustices de ce monde. Cette illusion sur la place du chrétien va connaître un essor malheureusement extravagant au XXe siècle, qui va se caractériser désormais par un désir victimaire d'exister. Depuis 100 ans, on a vu un nombre incalculable de livres parus ou de publications sur la place du chrétien dans l'entreprise, la place du chrétien dans la société. Ah, plus on parle de la place du chrétien, plus on semble qu'elle a disparu totalement. Eh bien, les chrétiens qui veulent exister devraient se rappeler que ce n'est pas un signe de bonne santé d'être intégré dans une société malade. La place du chrétien, elle sera dans les cieux. Sur terre, il ne l'occupe pas par sa religion. Sa religion va l'aider à l'assumer. C'est pour cela que nous ne pouvons pas chercher en permanence à exister et à nous battre en permanence contre ce qui arrive. Il faut être hors du temps. Être hors du temps, c'est une intuition que je reprends d'un célèbre dialogue entre Robert Dain et Saint-Loup. Lorsque les deux s'étaient rencontrés, ils évoquaient leur combat passé et justement, ils disaient, bon, à chaque fois, ils avaient perdu, et que dans leur combat passé, ce qui comptait, ce qui faisait qu'ils étaient toujours aussi actifs et qu'ils n'avaient pas changé, c'était le caractère hors du temps de ce qu'ils étaient. Dominique Venner, lorsqu'il a décidé d'arrêter l'action politique, a effectué ce même changement. Voici ce qu'il en dit dans ses carnets. « Je passais de la conquête de la rue à la reconquête de l'esprit d'identité, de la prise du gouvernement général à la prise de conscience. Le dessein n'était pas moins ambitieux, ni moins dangereux. Et c'est ainsi que Venner va lui-même définir la dissidence. Il dira bien que la dissidence peut être parfois politique, mais avant tout, elle est une nécessité intérieure. Nous nous plaçons ici donc dans le sillage de Junger, d'Evola, de Monterland et de Saint-Loup. Il faut bien être dissident, c'est-à-dire c'est cela être hors du temps. Il va falloir une certaine déconnexion. Il est vrai que cela est difficile parce que l'action politique de l'homme, elle sera forcément contre le temps. Tous les grands leaders politiques qui se sont levés contre le temps qui s'écoulait. Mais ce qu'ils sont, ça ne peut pas être forcément contre le temps. Et Nietzsche dira à juste titre que ce qui veut tomber, il ne faut pas le retenir, il faut encore le pousser. Nous ne pouvons pas passer notre temps à lutter contre le temps. Dans un de ses derniers entretiens, Dominique Vénère évoquait justement ce passage à autre chose. Et il disait « Je n'aborde pas les sujets d'un point de vue politique parce que je crois que les réponses à apporter à la situation présente ne sont pas d'ordre politique. Cela ne veut pas dire que les temps et les hommes, les politiques en général, n'aient aucun rôle à jouer. Mais ce qui inspire l'action politique ne doit pas être politique ou doit être plus profond que la politique. C'est donc là la résurgence de la thématique du pouvoir spirituel. En fait, la sécession, c'est le fait de retrouver pour ce côté hors du temps, retrouver ce que nous sommes, retrouver notre identité, ce qui va fonder ensuite l'agir politique. Eh bien, il me semble que le christianisme est une parfaite école de sécession intérieure. Le christianisme a un aspect hors du temps. Il devrait être pour chacun de nous comme un retour au monastère, non pas physiquement, comme le moine qui a décidé de rentrer dans les ordres, mais un retour au monastère intérieur. Abel Bonnard avait une très belle formule, il disait que c'est en quittant les hommes qu'on retrouvait ses amis. Eh bien, je reprendrai cette image du monastère que je retrouve chez Monterland lorsqu'il dit que nous devrions être comme une forteresse à l'extérieur et un jardin à l'intérieur. N'est-ce pas la plus belle image d'un cloître ? On imagine facilement la clôture, ces hauts murs d'enceinte qui protègent le trésor sacré et le jardin à l'intérieur où nous pouvons déambuler. Nous devons donc chercher ce qui est intemporel, le chercher et le garder. Nous devons être les gardiens de l'intemporel face aux marchands du temple. Saint-Loup a voulu montrer cela dans son cycle des patries charnelles, par l'attachement viscéral qui lie l'homme à la terre et à la foi païenne venant de paysans. La maladie du siècle n'est pas dans le corps est malade parce que l'âme est malade. C'est elle qu'il faudra coûte que coûte guérir et revivifier. La vraie, la grande révolution à faire est là, révolution spirituelle ou faillite du siècle. Il est donc grand temps d'édifier les citadelles de notre empire intérieur. Le christianisme doit être un état de sécession intérieure. Nous devons être intérieurement en rupture radicale avec le monde. Cela ne veut pas dire que physiquement nous le serons forcément, mais intérieurement nous ne devons pas nous laisser contaminer. Physiquement, nous y serons parfois poussés, mais c'est d'abord intérieurement que cela doit se passer. Ce n'est qu'au prix de cette rupture que l'homme pourra dire qu'il ne se laissera pas changer et qu'il pourra en plus agir convenablement. Cette citadelle intérieure doit en plus être imprenable. C'est celle que Saint-Exupéry décrit lorsqu'il nous dit que l'empire de l'homme est intérieur. Et celui qui l'a très bien décrit, c'est également Jean Raspail, dans le conseil qu'il donne à son jeune prince dans Le Roi au-delà de la mer, lorsqu'il nous dit « Il y a le royaume invisible, celui qui n'a ni terre ni frontière, celui qui est un élan de l'âme. Celui-là est le fondement de l'autre, le royaume visible, et c'est pour le moment le seul qu'il nous reste. Ne le risquez pas dans la cohue et la confusion, emportez-le avec vous en exil. » Oui, je vous y invite, il faut partir en exil intérieur pour protéger notre royaume intérieur. Concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Quelles peuvent être les perspectives de réflexion pour orienter notre agir ? Eh bien, il nous faut revenir au concept du surhomme et l'accepter pleinement dans ce qu'il a de chrétien. Il faut effectivement une reconquête sur nous-mêmes. La reconquête ne considère pas que l'agir moral quand on est chrétien, et même, je dirais, un agir empreint de moraline. Il ne s'agit pas uniquement de rectifier quelques petites mauvaises habitudes. Non, ce n'est pas simplement nos habitudes et nos mœurs qui ont été changées, c'est tout notre état d'esprit. Pensez à Bernanos, à Saint-Exupéry, à Gustave Thibon, à Gomez d'Avila. Eux étaient justement ces initiateurs du mouvement de la reconquête intérieure. Rappelez-vous que le libéralisme ne fait pas que changer nos mœurs, il a vraiment changé nos états d'esprit. Le capitalisme n'est pas une doctrine économique, c'est un état d'esprit. La reconquête doit donc être radicale. Il faut épurer également notre christianisme des visions qui l'ont parasité. Et cela va passer par le dépassement de nous-mêmes. Le dépassement doit être notre mode de vie. Effectivement, pour y réussir, cela exige de chacun de nous des efforts exceptionnels. Avec fanatisme et dureté, il nous faut nous préparer. Et le christianisme est une école de dépassement. Regardez les exemples des moines, des ascètes, de tous ces martyrs qui, justement, n'ont pas eu peur d'un engagement radical et d'un dépassement d'eux-mêmes. Et j'emprunterai également deux exemples à des gens qu'on pourrait qualifier d'ennemis, mais qui, finalement, nous donne une bonne leçon. Je pense à ces moines du Mont Athos qui n'avaient pas hésité à afficher une banderole, l'orthodoxie ou la mort. Je pense également aux 200, les 200 morts des bûchers de Montségur, eux qui n'ont pas eu peur de mettre leur peau au bout de leurs convictions. Il faut alors accepter de se dépasser en s'affrontant soi-même. Pour trouver ce que nous sommes, il faut affronter notre nature et même la nature. Saint-Exupéry commencera ainsi son livre « Terre des hommes ». La terre nous en apprend plus sur nous que sur tous les livres parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Cet exemple de dépassement, nous le trouverons chez beaucoup d'écrivains. Évidemment, j'ai entendu tout à l'heure citer Jean Mabir, mais je pense essentiellement à Saint-Loup dans sa confrontation avec la montagne, qui était pour lui le lieu de la rencontre avec les dieux. Et vous trouverez une pensée similaire chez Julius Evola dans sa méditation du haut des cimes. Lui qui luttait éperdument contre les excursions, les promenades et l'alpinisme sportif qu'il trouvait ridicule, il disait que la haute montagne est une voie de libération, de dépassement, d'accomplissement intérieur. Eh bien, c'est maintenant à vous de trouver vos dépassements. Collectivement, cela va se passer comme dans le camp des saints. Le camp des saints est une image littéraire extrêmement intéressante parce qu'elle n'est pas sans analogie avec le monastère. Il s'agit de se retrancher du monde pour ne pas se laisser changer. Une idée a été développée par Francis Bergeron dans sa biographie de Saint-Loup lorsqu'il regroupe dans sa thématique du camp des saints plusieurs auteurs qu'il avait pensé à leur manière. On pense évidemment à Jean Raspail qui a donné ce titre à un de ses livres, mais c'est également la même pensée que vous trouverez chez Giono, notamment dans tout ce qu'il a pu faire au Contadour, mais également donc chez Saint-Loup que je citais tout à l'heure. Saint-Loup qui voyait dans les sommets le dernier refuge de l'homme libre contre les grands esclavages politiques. Là où le moine choisit de se retrancher, la nécessité nous vient souvent des circonstances, mais c'est peut-être cela le plus dramatique. Nous avons oublié qu'il était nécessaire de se préserver du monde. Nous voyons comme une nouveauté ce qui était autrefois une évidence. Quel sera notre camp des saints à nous ? Une forme de communauté. On peut penser évidemment au livre de Rob Dreher sur le Paris bénédictin. Et sans tomber dans l'écueil du communautarisme, il nous faut redécouvrir la nécessité de la communauté. Pourquoi ? Parce que l'homme seul ne peut rien faire. Face à la défaillance des grandes entités politiques, les plus petites structures sont un refuge pour l'identité menacée. Le retranchement, contrairement à ce que l'on pensait, n'est pas une idée négative. Le retranchement n'est pas le fait de se retirer, il est le fait de se regrouper dans une communauté d'idées et de vie. Au terme de ce propos, je voudrais réaffirmer que le christianisme est anti-politique. Son message est d'un autre ordre que celui des réalités de ce monde. Cependant, la grâce fournit aux chrétiens le moyen d'agir de manière plus exigeante et plus radicale dans la sphère temporelle. Il faut se prémunir des écueils que je dénonçais tout à l'heure, garder intacte notre religion et refuser de voir en elle une quelconque justification des pouvoirs ou des manœuvres politiques. C'est maintenant quelque chose d'extrêmement récurrent. Après avoir fabriqué une religion naturelle, la nouvelle théologie nous entraîne sous un nouveau terrain où l'Église semble vouloir dicter l'action politique à la terre entière. Nous devons préserver notre religion de cette contamination. Le Christ a lui-même eu une conduite qu'on pourrait qualifier de subversive. Mais cela me semblerait quelque peu léger parce qu'évidemment, son message va contre toutes les autorités qu'on a pu connaître à l'époque et surtout son message répété contre la puissance de l'argent. Mais plus que subversive, son attitude était réellement sécessionniste. Pourquoi ? Parce qu'il a lutté pour son royaume et il a voulu le garder indépendant des cités terrestres. Et pourtant, cela n'a pas empêché d'œuvrer et d'agir sur terre et à sa suite, tous les saints qui forgèrent la chrétienté ont fait de même. Cette indépendance ou esprit de sécession permet d'éviter l'attitude immobiliste du conservateur nostalgique qui a pour seule activité de déplorer le passé. J'emprunte ici un mot à Robert Dain qui disait d'eux « Il ne faut pas faire comme le médecin de Molière en allant voir 10 fois un cadavre pour savoir comment le guérir. » La sécession est un état d'esprit valable de tout temps. Pour le chrétien, pourquoi cela est valable de tout le temps, cette sécession ? Parce qu'elle le place hors du temps. Même si certaines époques ont paru plus favorables au christianisme, même penser au grand siècle des âmes, au XVIIe siècle en France, siècle qui a fourni le plus grand nombre de saints à la France, et bien même en ce temps-là, favorable au christianisme. Il s'est trouvé des grandes figures de saints, je pense notamment à Saint Vincent de Paul, pour dénoncer les errements, les erreurs, les injustices d'un régime. Et cela, il faut le comprendre, Tout régime humain, parce qu'il est humain, comporte des parts d'imperfection. Il appartiendra donc aux chrétiens de les dénoncer. C'est pour cela que le chrétien ne peut s'accommoder d'aucun régime, d'aucun système. Il pourra de tout temps affirmer, comme Dominique Vénère, bien dans sa peau, mal dans son temps. Cela se vérifie donc évidemment de manière éminente pour notre époque où le christianisme n'est plus en faveur. Le déclin civilisationnel que connaît l'Occident n'est pas sans lien avec le déclin religieux. Et ici, j'aimerais citer Jean-Luc Poutier, « Dans l'immédiat, ce n'est pas le ciel mais l'enfer qui attend l'Europe chrétienne ». Cela paraît donc davantage nécessaire, c'est une nécessité première, de revenir à l'esprit de sécession pour garder intact l'héritage civilisationnel, gardien et protecteur de la religion chrétienne. La constitution des citadelles intérieures est l'une des conditions essentielles qui garantira le maintien de l'identité européenne et de la foi catholique. Comme le disait Robert Dun, ne soyez pas désespérés, Nietzsche nous a averti que les hommes supérieurs devaient apprendre à se cacher, à passer inaperçus, peut-être pendant 2 ou 3 siècles. Je conclurai en citant le même auteur, « Nous restons invaincus, pourvu que nous soyons capables de situer notre combat hors du temps ».